Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des figures assez connues du nationalisme radical en Europe occidentale depuis 1945. Je pense à des noms comme Le Pen, Almirante, Pignard.
Et plus récemment, Ventura au Portugal, oui.
Exactement. Et ce qui est frappant, c'est que malgré les époques, les pays différents, on a l'impression que certaines idées persistent ou se réinventent.
C'est tout à fait ça. On va regarder de plus près les parcours de Jean-Marie Le Pen en France, Giorgio Almirante en Italie, Blas Pignard en Espagne, aussi Von Thaden et Schönhuber en Allemagne.
Ah oui, le cas allemand est intéressant.
Et puis André Ventura au Portugal, donc. Les documents qu'on a pu consulter, ils montrent vraiment des trajectoires et des idées assez fascinantes.
L'objectif, donc, c'est de voir un peu ce qu'ils ont en commun. On parle souvent de souveraineté, d'identité, d'un certain populisme, de rapport à l'histoire aussi.
Oui, un rapport souvent très sélectif à l'histoire.
Tout à fait, mais aussi... qu'est-ce qui les distingue? Parce que leurs succès ou leurs échecs, ça dépend énormément du pays, de son histoire, des institutions politiques aussi. Comprendre ça, c'est peut-être une clé pour aujourd'hui.
Exactement. Il y a comme un socle idéologique commun, ce que les sources appellent un archipel, cette idée d'une Europe des patries souveraines.
Oui.
Un appel direct au peuple contre ce qu'ils appellent les élites, une défense de l'identité, souvent vue comme menacée, et puis cette utilisation, comme vous disiez, très stratégique de la mémoire.
Cette Europe des patries, c'était important pour Almirante ou Von Thaden, par exemple?
Oui, c'était un marqueur fort. Mais au-delà de ça, ce qui saute aux yeux, ce sont les destins électoraux. Ils sont extraordinairement variés.
Alors, comment on explique ça?
Deux choses principales ressortent d'après les analyses. Les institutions, et surtout le mode de scrutin, et puis l'histoire nationale, l'héritage propre à chaque pays. Le même discours, il ne va pas du tout prendre de la même manière partout.
Prenons Le Pen, en France. Lui, il incarne quand même une forme de réussite électorale, non? Des moments forts, comme les européennes de 84, ou surtout 2002.
Ah oui, 2002, le choc.
Et il arrive au second tour de la présidentielle avec quasiment 17%. Son style aussi, tribune, provocateur, la fameuse phrase sur le « détail de l'histoire ».
Une provocation qui a marqué, oui. Ça a contribué, paradoxalement, à, disons, normaliser un vote qui était très marginal avant.
Et en Italie, Almirante?
À la tête du MSI, le mouvement social italien.
Qui revendiquait clairement la filiation avec le fascisme mussolinien, oui.
Lui aussi a eu un succès notable, non?
Début des années 70.
Oui, en 72, il fait presque 9%. Ce qui n'est pas rien, vu l'ostracisme politique. Sa stratégie, c'était l'ancrage local et une sorte de recherche de respectabilité qui a en quelque sorte préparé le terrain pour la suite, pour Alianza Nacional plus tard.
D'accord. Mais alors, si on regarde l'Espagne, Blas Pignard, Fuerza Nueva, pourquoi lui, il n'a eu qu'un seul député en 1979? Son discours était pourtant très affirmé, très national-catholique, dans la lignée du franquisme.
Alors là, c'est un bon exemple de l'impact des institutions. Son influence a été plus, disons, doctrinale, idéologique, qu'électorale. Le système électoral espagnol de l'époque, moins proportionnel, a beaucoup joué.
Ça a limité sa percée.
Exactement. Mais ses thèmes, l'unité de l'Espagne, le rejet du séparatisme, ça a quand même infusé une partie de la droite radicale par la suite. On voit bien comment l'idéologie propose, mais les règles du jeu politique, elles disposent.
Et l'Allemagne? Von Thaden avec le NPD dans les années 60, Schönhuber avec les Républicaineurs fin des années 80. Eux, ils ont fait des scores régionaux importants, c'est ça?
Oui, oui, des percées parfois proches de 10% dans certains Länder, ce qui est significatif. Mais voilà, le fameux seuil des 5% pour entrer au Bundestag au niveau fédéral.
Le verrou.
C'est ça, un verrou efficace. Et il faut ajouter la surveillance très stricte de l'Office de protection de la Constitution. Leur thème, nationalisme, une certaine critique de l'OTAN, se heurtait à ces garde-fous institutionnels. Et bien sûr, au poids de l'histoire allemande.
Vous parliez tout à l'heure d'utilisation de la mémoire. Les sources utilisent l'expression « mémoire armée ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est cette façon de piocher dans le passé national. On prend des figures, des événements. Jeanne d'Arc pour Le Pen, la Grande Romaine pour certains Italiens, la Reconquista pour Pignard.
Et on en fait des symboles politiques.
Exactement. Des étendards pour aujourd'hui et des armes contre les adversaires. C'est une relecture très très orientée de l'histoire, pour mobiliser.
Et on revient à l'impact des systèmes électoraux. Le cas récent d'André Ventura au Portugal, c'est l'illustration parfaite, non?
Tout à fait. Son parti, Chega... ça suffit, en portugais, fondé seulement en 2019, l'ascension est fulgurante. Les documents parlent de près de 23% en 2025.
presque un quart de l'électorat. C'est énorme.
Et ça doit beaucoup, effectivement, à la proportionnelle intégrale portugaise. Ça facilite l'émergence de nouvelles forces politiques.
Son discours, il semble un peu différent, peut-être, moins focalisé sur une nostalgie dictatoriale précise, comme Salazar, plus sur l'ordre, la sécurité, l'anticorruption.
Oui, il est clairement dans cette veine nationale populiste, mais avec une tonalité très actuelle. La critique de l'establishment, l'appel à la fierté nationale, ça c'est classique. Mais il met l'accent sur les frustrations d'aujourd'hui. La corruption perçue, l'immigration, le sentiment de déclassement.
Plus que sur une référence directe au passé dictatorial.
Voilà. C'est peut-être une adaptation de ce courant aux enjeux perçus du XXIe siècle. Plus moderne dans l'approche, si on veut.
Donc si on essaie de résumer, on a une sorte de famille politique qui traverse l'Europe, avec des thèmes communs forts, la nation, l'identité, le peuple contre les élites.
C'est ça.
Mais leur capacité à percer, à s'installer durablement, ça dépend vraiment, vraiment beaucoup des institutions de chaque pays et de son histoire propre. Leur discours capte souvent un besoin d'appartenance, une réaction au changement.
C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour la réflexion. Au-delà des discours, des scores électoraux parfois spectaculaires, quelle est la capacité réelle de ces mouvements, anciens ou nouveaux, pas seulement à contester, mais à gouverner, à transformer durablement les sociétés européennes complexes d'aujourd'hui?
C'est une question essentielle, en effet.
Tout l'enjeu est là, derrière ces parcours qu'on a évoqués.